souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là.
Comme on le peut. Mesdames et messieurs, bonjour.
Bonjour à tous.
Nous n'avons pas disparu, nous sommes encore là.
La canicule
n'a pas eu raison de nous.
Ouais, mais
n'est-ce pas Fred qui est avec nous aussi?
Oui, mais moi, pendant au moins 15 jours, je n'ai pas eu de voiture, donc bon, ça a été un peu compliqué de venir jusqu'ici.
Et bien, elle a voulu être à la fraîche aussi, voiture.
Oui. On ira
Fred,
pas jusque-là.
Il n'a pas perdu davantage de cheveux pendant la canicule?
Non, je les entretiens.
Ah oui. Bon, alors Guy, aujourd'hui, au programme...
Quel est le programme? Alors, à part Roland Garros que je regarde en double écran, là.
On vous donnera.
J'ai baissé le son, mais je regarde le. Parce que là, il y a gros match quand même. Donc, il y a le jeune Rodar face à Zverev. Et donc, Zverev vient de prendre au tie break 7-6. Le premier set, voilà. On est rentré dans le deuxième set.
Et à noter, parce qu'on est dans l'émission toujours debout, que le tournoi para-fauteuil a démarré.
Oui, c'est ça.
De Roland Garros a démarré ce jour.
C'est ça.
Avec notamment 6 Français.
Oui.
À la conquête du titre.
Mais notre ami Jérémias. Notre ami Jérémias, qui est en commentaire, il va pouvoir nous en parler un peu, je pensais.
Oui,
parce que,
je pense
à
aussi.
À une époque, il a participé, il connaît ça. Hein.
Et aujourd'hui, comme je le disais, il y a toujours Stéphane Houdet, notamment. Qui a
été.
Et à noter, même si je ne suis pas forcément fan de ça. Notre ami Yannick Noah est toujours responsable
De l'équipe
du para-tennis,
équipe de France.
Équipe de France.
C'est ça.
Alors qu'on change de matériel, c'est du direct.
D'accord.
Je crois
que le
casque fonctionnait.
Ouais, mais moi j'ai pas besoin de le mettre.
Non, mais c'était pour écouter les bêtises de Fred, hein, c'est juste
Oui, oui, c'est ça, c'est pour être en contact.
Voilà.
En direct live.
Donc voilà, parenthèse tennis fauteuil refermé. Nous allons aujourd'hui parler de handicap, bien sûr, c'est le maître mot de cette émission.
De cette première heure d'émission.
Oui, même s'il y en a, ils sont handicapés, mais ils ne le savent pas. Non, ça c'était la petite blague gratuite. Nous allons parler inclusion sociale d'ici une dizaine de minutes, où je vous lirai un texte qu'on m'a fait parvenir d'un éducateur spécialisé dans les centres médicaux sociaux. Et je pense que c'est un sujet que l'on connaît assez bien avec Guy, notamment parce que madame a été dans les IUM et moi aussi.
Et ESAT
derrière. Moi aussi d'ailleurs, j'étais dans un IUM, donc c'est des milieux... Je pense qu'avec Guy, on maîtrise pas mal.
Ça évolue peu, donc
Très peu. Et malheureusement, je pensais qu'en rentrant dans les années 2010-2020, on allait être dans les avancées. Là, j'ai l'impression qu'on redevient à l'âge de pierre.
Oui, c'est un peu...
Si vous voyez à quoi je veux faire allusion. Dans un premier temps, Guy, je voulais revenir avec toi, et ça fera après une passe décisive avec ce que je vais vous lire tout à l'heure. Hier, sur LCP, chaîne très peu vue, et que je regarde très peu, je reconnais, la chaîne parlementaire,
oui.
Que Fred regarde tous les jours, je le sais, 2 heures par jour. Et non, je plaisante. Sur la chaîne parlementaire, parce que figurez-vous qu'il y avait un reportage sur la première loi handicap de 1975.
J'avais 5 ans, c'est dingue.
Non, 1975.
10 ans.
Non, 1975, ça fait pas 10 ans, Guy.
Non, mais moi, j'avais 10 ans.
Ah oui, vous, t'avais 10 ans déjà.
Ben oui.
Oh là là.
J'avais 10 ans.
On donne pas l'âge, Guy, mais...
J'étais né en 65.
Il avait déjà 10 ans, ce monsieur.
75, ça fait 10 ans.
Et donc, Guy, peut-être qu'à 10 ans, on ne s'intéresse pas à ça.
Ah, ça c'est sûr, j'avais d'autres problèmes.
Il faut savoir quand même qu'il y avait eu donc la première loi qui a été faite.
Ça a été sur quoi alors?
Sur, et en fait, c'était pas du tout sur l'inclusion, c'était surtout sur les, même si ça en fait partie, sur les mobilités.
Oui.
Mais il y a quand même quelque chose qui a été soulevé lors de ce reportage, c'est qu'en 1975, j'ai pas souvenir de personne en fauteuil roulant. Peut-être que toi, t'en connaissais déjà.
Oh non, c'est vrai que... Oh, tu sais, j'ai pas trop... Ouais, de cette époque-là, tu sais, quand tu as 10 ans, bon...
Oui, t'as des vagues...
J'ai pas trop de souvenirs. Quoi,
on commence à avoir des souvenirs.
Oui, quelques souvenirs, mais pas ce genre de choses.
Et ce qui m'a frappé dans la suite du débat, c'est parce qu'il a été dit que, donc, en 1975, il fallait faire des choses, déjà.
Oui, par rapport...
Qui n'avaient pas été respectées. Parce que 40 ans après... 2005, ils ont répandu une... 50 ans après. Ils ont répandu une... Non, 40 ans après. Ils ont répandu une loi, la loi 2005, qui aujourd'hui, on redécale jusqu'à 2031. Donc, j'ai l'impression qu'ils se forcent à faire des lois, ces gens, mais qui ne sont jamais respectés.
Et oui, ils n'arrivent pas à tenir le timing, on peut dire.
Et ce qui m'a frappé... On en discutait en off, comme on dit dans le jargon, c'est qu'il y avait autour de cette table une députée France Insoumise responsable de la mobilité. Mobilité, ils le mettent dans tout et n'importe quoi, hein, vous remarquerez. C'est comme inclusivité, ils le mettent partout. Il y avait Sébastien Pétavy, député aussi France Insoumise, en situation de handicap. Je préfère le préciser parce que c'est l'un des seuls, je crois, députés en situation de handicap. J'ai bien dit député, parce qu'en mairie, il y a des adjoints en mairie,
oui.
Déficient mental, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui.
Ou mental. Non, déficient mental.
Mental, oui.
Mentaux, qui sont...
pluriel, déficient mental.
Qui sont dans les mairies et qui font partie des...
Oui, mais aussi des handicaps physiques.
Oui, voilà. Et il y avait aussi, la ministre, enfin secrétaire d'État au handicap.
Oui.
Et ce qui m'a frappé, c'est que quand on a les seules personnes qui ont marqué des points en parlant de mobilité, de ce qu'il fallait faire et pourquoi les gens reculent à chaque fois concernant cette loi, c'était les personnes en situation de handicap. Alors ma question est la suivante, elle est valable pour tous les deux. Je me rends compte qu'aujourd'hui la secrétaire d'État au handicap n'est pas en situation de handicap. Est-ce qu'il ne faudrait pas une personne en situation de handicap au secrétariat ?
Non, mais alors...
C'est une question à double entrée, vous en faites ce que vous voulez.
Oui, c'est ça, mais alors bon, on peut ne pas être en situation de handicap et connaître très bien les problèmes liés au handicap par certaines expériences, par...
Mais ce n'est pas
une obligation d'être handicapé pour bien connaître le handicap. On connaît plus, effectivement, parce qu'on le vit au quotidien. Mais je veux dire, des personnes valides peuvent aussi avoir une expérience dans ce domaine-là.
Oui.
Le problème, c'est qu'elles n'y connaissent rien.
Ce
sont des politiques.
Là où je te rejoins, c'est que je vais citer deux noms qu'on connaît ici, parce que c'est deux députés de la Gironde, que ça soit M. Saint-Pasteur, député du canton Pessac-Cestas, et M. Escotte,
oui.
Que l'on a reçu plusieurs fois,
Bordeaux.
Qui a été à la mairie de Bordeaux jusqu'au dernier mandat de M. Urmic, qui a fait les... Non, M. Urmic en a fait qu'un mandat, oui. Pour le mandat de M. Urmic, c'est vrai qu'il n'était pas en situation de handicap, mais je trouve qu'il connaissait leur sujet.
Eh bien, parce qu'il était beaucoup sur le terrain, c'est un sujet qu'il a beaucoup
Et M. Saint-Pasteur aussi. M. Saint-Pasteur a noté qu'il est député aussi à l'Assemblée nationale et qu'il a défendu...
Mais de toute façon, les députés, ils sont tous à l'Assemblée nationale.
Mais M. Escotte n'est pas député.
Mais tu dis M. Pétavy, là, il est député, il était à l'Assemblée nationale.
Aussi, forcément.
Il est obligé, c'est son boulot.
C'est vrai.
C'est son boulot.
Mais contrairement à M. Pétavy, M. Saint-Pasteur n'est pas en fauteuil roulant.
Ouais.
C'est ce que je voulais dire.
Ah, d'accord.
Merci, Guy.
D'accord, mais par contre, il est à l'Assemblée nationale aussi. D'accord.
Voilà. Et tout ça pour dire qu'il a défendu deux sujets, c'était la santé mentale qui fait partie aussi d'un handicap aujourd'hui, qui est très connu de notre monde, un sujet qu'on a adoré aborder avec une personne que tu nous avais invité. Rappelle-moi son nom, s'il te plaît.
Ivar,
tout à fait.
Oui, oui, oui.
Qui était très passionnant, d'ailleurs.
Oui, c'était passionnant, oui.
Et qui a aussi défendu un dossier qui nous est cher avec M. Liévin, c'est les AESH, les aides dans les écoles.
Les aides dans les écoles.
Et Monsieur Saint-Pasteur a défendu ces deux gros projets. Donc, effectivement, pour te rejoindre, c'est pas forcément parce qu'on est handicapé qu'on connaît mieux les sujets.
Non, mais c'est ça. Mais il suffit de s'y intéresser, d'être sur le terrain, de voir comment ça se passe. Et puis, après tu te demandes quand même, c'est souvent ce qui se fait, on le dit souvent, c'est souvent ce qui se fait dans les pays européens du Nord et puis aux États-Unis, etc. Il y a quand même par rapport au handicap, il suffit d'ouvrir les yeux et il y a quand même du bon sens.
Oui.
Il suffit de nous voir évoluer, il suffit de voir nos passions, ce qu'on fait dans la journée. Et bien, très vite, tu comprends les choses, tu comprends les problèmes. Il y a beaucoup de bon sens. Donc, quand tu vois la transformation des villes aux États-Unis, quand tu vois tout ce qui est donné
en Italie dans les écoles,
aux personnes handicapées en Norvège, au Danemark, Suède, etc. et tout, les gens s'appuient sur du bon sens.
Oui.
Ils se réunissent pas des dizaines de fois, des discussions, de dire « Ah, mais tu crois, il va falloir monter une commission pour ceci, une commission pour cela. » Et tu perds un temps fou, et au final, il ressort rien.
Non.
Alors que si tu suis le bon sens, eh bien, tu arrives à faire des choses concrètes.
Et on
ne l'a toujours pas en France. On n'est pas comme ça, les Français. C'est ça le problème.
Justement,
on est pas comme ça.
On parle de bon sens et je souris en regardant Fred. On va faire une petite aparté, mais c'est en rapport avec l'émission. Rappelle-toi, Guy et Fred, du coup, au passage, nous avons parlé de la belle initiative des repas à 1 euro à la cantine.
Oui.
Alors, question rigolote pour Fred, pour les gens qui nous écoutent habituellement, ils vont avoir l'habitude. Comment va ta fille? Est-ce qu'elle mange bien?
Ah oui, c'est ça, oui.
Ma fille mange toujours bien.
Après, et alors,
est-ce que le contenu de l'assiette est plus qualitatif? Ça, je ne sais pas.
Elle ne s'est pas plainte, du moins.
Peut-être parce qu'elle ne peut plus parler. Ou...
Ah, mais... il me disait, ça se trouve, elle ne peut plus parler aujourd'hui. Donc, écoute, elle n'a pas été malade jusqu'à présent.
Pas que je sache, non.
Donc, d'après ce que tu sais, c'est toujours d'actualité.
Je ne saurais pas le confirmer, mais je vais attendre la facture.
Non, mais parce que là, on était un petit peu en train de critiquer, entre guillemets, mais quand il y a des bonnes choses de fait, il faut savoir aussi le dire.
Oui, bon, mais bien sûr. Bien sûr, il y a eu quand même des avancées, malgré tout, en France, liées au handicap, heureusement quand même.
Et alors,
mais c'est vrai que c'est d'un compliqué, tout ça.
Alors, j'en reviens au tennis fauteuil, parce que le premier jour de tennis fauteuil a démarré. On va revenir là-dessus. Je vais reprendre toujours l'exemple des Jeux paralympiques. J'ai l'impression qu'on parle toujours des personnes handicapées par exploit sportif. Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il faut toujours prouver qu'on est capable.
Oui. Ou c'est pas parce que pourtant je suis sportif. Hein, je vais pas critiquer le sportif, loin de là. Mais je pense que quelqu'un qui est matheux et qui est en situation de handicap, il est aussi fier. Enfin.
Oui.
J'ai l'impression qu'on est toujours dans l'exploit sportif parce qu'il faut montrer exactement.
Oui. Et
par l'image, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, cette personne, peut-être en situation de handicap, qui est très fort en maths, n'aura pas la médiatisation.
Et autant de reconnaissance, exactement.
Voilà, et autant de reconnaissance qu'un sportif qui gagnera des trophées et des médailles aux Jeux paralympiques.
Si, il y avait quand même Stéphane Hawkins, non, c'est... qui était très lourdement handicapé, qui était physicien.
Ah oui, oui, qui était physicien, oui, bon, on en entend parler, oui, bien sûr.
Mais
oui,
effectivement, mais, je rejoins ce que tu dis.
Mais ça fait, mais si tu veux, le fait de... Bon, c'est toujours pareil, on en est toujours au stade de faire découvrir
et de l'expérimentation.
Le monde du handicap par les personnes valides, montrer que... Et alors, donc, en fait... bon, mais ces sportifs en situation de handicap aux Jeux Olympiques, pour les Paralympiques, ça a été une vitrine quelque part pour montrer.
Pas du juste prix.
voilà, mais qu'ils sont aussi capables dans les sports que des valides, que ça demande autant d'entraînement. Et bon, mais voilà, c'est bien. Mais enfin, bon, le quotidien d'une personne handicapée n'est pas tout à fait ça quand même. Hein.
Et avant de lire ce que l'on m'a envoyé, parce que j'y tiens vraiment, je ne sais pas si tu vas me suivre là-dessus, mais c'est un mini coup de gueule et ça va faire une passe décisive à ce que je vais lire dans 2 minutes. Hier, pour pas mentir aux auditeurs qui nous écoutent, j'ai reçu un coup de fil de la mairie de Mérignac me disant qu'il faudrait qu'on parle de leur événement Espace Game, c'est-à-dire les sports pour les personnes handicapées. Qu'ils font une journée aujourd'hui jusqu'à 17h à Robert Brett, donc à Mérignac. Moi, le coup de gueule de ça, Guy, c'est parce que t'es en situation de handicap, on prévoit des choses la semaine. Pourquoi tu fais rien, Laurent ? Moi, j'aurais aimé, pour le grand public, alors oui, il faut les payer, le week-end, c'est compliqué, mais qu'ils fassent ça un week-end.
Ah oui.
Qu'ils fassent ça découvrir au plus grand monde. Parce que je suis désolé, certes, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage et c'est très malheureux, mais pour le commun des mortels, les gens travaillent la semaine.
Oui, mais alors c'est sur plusieurs jours en plus, non ?
Non, c'est qu'aujourd'hui.
Ah, c'est qu'aujourd'hui, oui, d'accord.
C'est pour ça. Oui. Alors on parle d'inclusivité, mais en fait, en le mettant la semaine, pour moi, j'appelle ça du repli sur soi. Je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus.
Oui, c'est vrai. Alors après, pour quelle raison avoir choisi ce jour-là ?
Alors, j'ai quand même posé la question, on m'a répondu, mais c'est surtout pour les gens, c'est surtout pour les gens en situation de handicap.
Ah, d'accord.
Ah, bon. Oui, mais ça veut dire que... la maman de l'enfant ne peut pas l'amener, c'est un mardi après-midi. Enfin, moi, pour que ça soit pour le grand public, si on veut démocratiser tout ça,
il faut
que ça soit un week-end. Enfin, c'est mon avis. Je prends l'exemple de la boccia, tu en parleras si tu veux tout à l'heure, mais c'est le samedi.
C'est un samedi, oui.
En plus, quelle belle date, n'est-ce pas, mon cher Guy ? Mais vu que c'est le samedi de mon anniversaire, mais
oui.
Quelle belle date, c'est un samedi. Tout le monde peut y aller.
Mais là, ça, espérons que ça va être sympa, c'est sûr.
Donc voilà, donc une petite passe D par rapport au courrier qu'un éducateur de l'APF m'a envoyé, me dit, parce qu'ils vivent aujourd'hui une situation délicate, c'est-à-dire que les éducateurs ne peuvent plus travailler le week-end. C'est-à-dire qu'à partir de 18h le vendredi...
Oui, mais alors c'est surtout par rapport au foyer là, de mon séjour. Là,
oui,
c'est
mais en fait...
Il y en a d'autres.
Je me suis renseigné, c'est dans tous les foyers APF.
D'accord.
APF, donc c'est région...
Oui.
Donc la masse de l'Ormont...
Association des paralysés de France.
La masse de l'Ormont, ce nom, il y en a un pareil, c'est la même chose. Moi, j'ai eu le courrier du foyer de mon séjour parce qu'il soit à côté de chez moi.
Ah, d'accord. Okay.
Mais en fait, je me suis renseigné, tous les foyers APF sont dans le même...
Dans le même cas.
Dans le même constat. Donc, je vais juste vous lire quelques petites phrases, parce que
mais,
sinon...
Oui,
je vais
mais
vous
alors, bon, avant que tu lises ce courrier,
oui.
Ça veut dire une chose, ça veut dire que les personnes... handicapés n'ont droit à faire
aucune
activité le week-end.
Voilà. Oui, à partir du vendredi soir.
À partir du vendredi soir, c'est terminé.
17h.
Voilà, c'est parfait, c'est magnifique.
Et par contre, lundi matin, mardi, il faut que tu fasses un maximum de choses, parce que le week-end après...
Eh bien oui, non mais...
Alors que...
Voilà, donc c'est un peu le problème.
Donc,
alors, voilà, donc bon, mais tu peux peut-être lire le texte. Et
à
puis,
moins que Fred veuille le lire, parce qu'il a une voix plus douce que moi. Tu veux ? Vas-y, tu seras peut-être meilleur que moi. Il y a des...
Allez,
vas-y, Fred.
Alors, je commence par ici.
Ouais.
Allez. Handicap, quand l'inclusion s'arrête le vendredi soir. Aujourd'hui, je souhaite attirer l'attention sur une réalité qui touche de nombreuses personnes en situation de handicap dans notre département. Depuis plus de 40 ans, certaines structures médico-sociales de Gironde proposaient des accompagnements, des activités et une présence éducative les week-ends. Ces temps n'étaient pas de simples loisirs. Ils permettaient de rompre l'isolement, de maintenir le lien social, de participer à la vie de la cité et, tout simplement, de vivre comme tout le monde. Pourtant, en 2026, des réorganisations conduisent à concentrer davantage les moyens humains sur les jours de semaine. Conséquence, certains accompagnements du week-end disparaissent ou sont fortement réduits. Derrière ces décisions administratives, il y a des personnes, des femmes et des hommes en situation de handicap qui voient leur quotidien se restreindre. Pour certains, les activités du week-end constituaient l'un des rares moments de sortie, de rencontre et de participation sociale. Comment parler d'inclusion lorsque les possibilités de sortir, de pratiquer des activités ou créer du lien diminuent ? Comment lutter contre l'isolement si les temps d'accompagnement sont réduits précisément lorsque les familles travaillent, lorsque les commerces sont ouverts, lorsque la vie sociale est la plus active ? Hop, voilà. Je fais défiler, hein, attends, un problème technique. Le handicap ne s'arrête pas le vendredi soir. Les besoins d'accompagnement, de soutien et de vie sociale existent 7 jours sur 7. Nous savons que les contraintes budgétaires sont réelles. Nous savons également que les professionnels du secteur social et médico-social font face à une crise profonde. Manque d'effectifs, difficultés de recrutement, épuisement des équipes et tensions financières. Mais nous devons collectivement nous poser une question simple. Quelle société voulons-nous construire ? Une société qui considère l'inclusion comme une priorité ou une société qui la limite aux horaires de bureau ? Les personnes en situation de handicap ont droit à une vie sociale pleine et entière. Elles ont le droit aux loisirs, aux rencontres, aux sorties, aux projets et à l'autonomie. Ces droits ne devraient jamais devenir une variable d'ajustement. J'adresse aujourd'hui un appel aux décideurs publics, aux financeurs, aux associations et aux citoyens. Écoutons la parole des personnes concernées. Défendons les dispositifs qui créent du lien. Préservons les espaces de vie sociale qui permettent à chacun de trouver sa place. Car l'inclusion ne se décrète pas, elle se vit chaque jour de la semaine.
Je pense qu'après un texte comme ça, on peut qu'être d'accord.
Ben oui, voilà. Non, mais là, on est plongé dans la
réalité.
Derrière tout ça, il y a quoi ? Point, point, point. Il y a le financement.
Oui.
C'est une question de financement. Le problème, c'est que après, c'est des questions de volonté.
Oui.
Prendre en charge les personnes en situation de handicap en France. Si on veut, malgré tout, on est un pays riche, et bien c'est une question de volonté, il faut le faire.
C'est comme les EHPAD aujourd'hui. Tu as vu le prix ?
Ah ben oui,
c'est la même chose.
Oh là là, les EHPAD, oh là là, ça c'est sûr. Hein.
C'est un peu pour moi, je ne considère pas les personnes âgées comme des personnes handicapées, mais on est un petit peu dans le même...
Disons que souvent les familles sont obligées de payer, parce que les retraites des personnes... qui vont dans les EHPAD, ils n'ont pas les moyens de payer leur EHPAD, quoi.
Exactement.
Et donc, c'est pas... Non, mais c'est pas facile, c'est sûr. C'est compliqué pour les familles, hein.
Je souhaiterais... Je sais pas si tu connais ce principe-là, mais de la maison partagée.
Oui.
Tu vois ce que c'est, Guy ?
C'est-à-dire des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées au milieu de...
Qui vivent ensemble,
oui. Ah oui, même ensemble et au milieu des valides, des fois aussi.
Oui, ça dépend.
Mais
je prends l'exemple à Mérignac.
Ouais.
Il y a quelque chose qui s'appelle la maison partagée, c'est-à-dire que dans un même bâtiment, il y a 3-4 personnes handicapées qui se partagent une à deux auxiliaires de vie.
D'accord.
Et ils partagent les repas ensemble.
Oui.
Alors, est-ce que ça serait pas moins coûteux Parce que là, je te prends l'exemple de l'APF, ils sont quand même 36 jeunes. 36 personnes, pas forcément jeunes. Mm-hmm. 36 personnes. À ça, moi, je pensais...
36 personnes sur un foyer.
Oui, sur
là,
un foyer.
Sur à mon séjour, là.
Oui, à mon séjour, par exemple.
OK.
Mais ça va de 19 à 70
oui,
ans.
Oui, oui, oui.
Alors, est-ce que... Et on m'a bien expliqué qu'ils ne rentraient pas les week-ends, ces gens.
Et oui.
Donc ça veut dire que ces 36 personnes, le week-end, ils vont passer leur week-end devant Motus et devant Roland-Garros.
Oui, non, mais c'est...
Non, mais j'ai dit Motus, ça aurait pu être...
Oui, oui. Mais c'est compliqué. Alors bon, alors là, c'est un coup de gueule un peu par rapport à ça, donc réduction de...
Mais toujours de réduire.
Tiens, voilà notre ami Abdel... qui sera...
Le capitaine de soirée, non, ouais, le capitaine d'eau de radio, plutôt.
Qui a dû entendre qu'il doit être d'accord avec nous, mais c'est toujours... c'est le problème, c'est qu'à chaque coup, c'est déjà difficile pour ces personnes-là à trouver des activités, trouver de la socialisation, à rencontrer du monde, etc. Et on les limite de plus en plus par des freins financiers, par des freins de personnes.
Ah, ça ?
C'est terrible parce qu'on n'est pas capable de mettre une politique vraiment qui facilite la vie des personnes en situation de handicap. C'est ça le problème. C'est toujours du bricolage, on bricole, mais on bricole mal. Et ces gens-là, qui ont déjà des problèmes physiques à résoudre, voire des problèmes mentaux aussi, on leur crée encore plus de difficultés. Alors c'est ça, et nous on se bat contre ça, bien sûr, on est plein à se battre contre ça, mais c'est pas facile et on n'avance pas.
Et à savoir aussi, tu le sais mieux que moi, quand les personnes handicapées, quand ils vont à l'UBB, au cinéma ou autre, ils sont globalement bien reçus en plus.
Mais bien sûr,
il
n'y
a
bien
aucun
entendu.
Problème d'accueil.
Ah non,
ils font même les efforts pour la gratuité. J'ai appris que les boxeurs allaient venir à la gratuité.
Ah oui.
Alors
oui.
Qu'avant, c'était pas le cas.
Là, on parle de hockey sur glace.
Oui, les boxeurs de Bordeaux, pardon. Les Girondins et l'UBB, c'est déjà le cas. Le basket, c'est le cas également. Les cinémas, on a quand même des tarifs réduits.
Il y a des tarifs réduits.
Il ne faut pas non plus...
Voilà. Mais c'est vrai. Beaucoup de gens et de structures mettent en place beaucoup de... Mais après, c'est au niveau des infrastructures quotidiennes.
Oui.
C'est-à-dire qu'en face, les gens s'adaptent petit à petit. Les structures, les associations, les clubs, etc. s'adaptent. Mais de l'autre côté, ça fonctionne mal.
Oui.
Donc on ne peut pas accéder à toutes les propositions qui sont faites pour les personnes en situation de handicap.
Autre exemple criant, j'ai appris dernièrement que de plus en plus de gens allaient se voir supprimer leur aide PCH. C'est-à-dire par rapport aux aides humaines.
Oui, aux aides humaines.
Et j'ai appris que les aides ménagères ne rentraient plus dans les aides PCH.
Ah, d'accord. Ah bon.
Alors, est-ce que ça veut dire que les aides... Maintenant, on va se concentrer sur lever, manger, doucher, coucher. Je pense que ça va être ça, maintenant.
Ah oui.
Mais par contre, tu peux vivre... pas dans un endroit qui est sale, quoi.
Oui. Et oui, non, mais c'est ça, oui. Il faut aussi des aides ménagères, oui, bien sûr.
Donc, j'ai appris, encore une fois, que ça aussi, ça allait... Le département s'est rendu compte que certains, je le mets avec sans guillemets parce que je le sais, abusent des aides PCH pour avoir des aides ménagères. Alors comment on le rentre ?
Petit à petit, c'est vrai que je commence à en avoir un peu ras-le-bol parce que c'est la facilité. C'est-à-dire que depuis des dizaines d'années, on entend « oui, mais il y a des profiteurs ». Mais au niveau de l'État et au niveau de toutes les services qui s'occupent du handicap, pourquoi vous n'avez plus droit à ça? Pourquoi il y a autant de contrôles là-dessus, etc. C'est parce qu'il y a trop d'abus. Le problème, c'est qu'à un moment donné, peut-être aussi c'est trop facile de tout mettre sur ce compte-là, quoi. Je crois que quand même, au bout d'un moment, des abus, il y en a sûrement, mais il n'y en a peut-être pas tant que ça quand même.
Alors Guy,
faut arrêter.
Guy, on ne va pas mentir aux auditeurs, je pense que pour les aides ménagères, tu peux apporter ton expérience. Ben, je crois que tu as droit à certaines heures, c'est pas ça?
Ah oui,
tu
m'as expliqué? Oui, alors moi, oui, non, mais ça, tout le monde peut. Moi, c'est pas des aides ménagères.
Non.
C'est pour le jardinage.
Oui.
Mais non, ça, c'est juste ces aides-là. Tout le monde peut y avoir droit, même les valides.
Mais tu vois ce que tu m'as appris, je ne savais pas.
Du moment que tu emploies quelqu'un à domicile, à une époque, on appelait ça le CESU, c'était avec des bons que tu donnais parce que tu employais quelqu'un à domicile. Et donc, tu avais 50% qui t'étaient remboursés par l'État.
Oui.
Donc, si tu veux, cette chose-là, tout le monde en bénéficie. Seulement, étant donné que nous, en tant que personnes handicapées, on a quand même de faibles revenus, on a le plafond au niveau des impôts qui est assez important, et moi je peux bénéficier du 50%, qu'on appelle ça l'avance immédiate, le 50%.
Voilà, c'était l'avance immédiate. Je cherche.
Voilà, donc moi j'en bénéficie pour le jardin à l'année. Mais j'ai, par exemple, sur l'année, j'ai un plafond à 10 000 euros. C'est-à-dire que sur l'année,
tu peux avoir
utiliser 10 000 euros de crédit d'impôt par rapport à des gens que j'emploie pour moi. Et là, en l'occurrence, moi, j'en ai besoin que pour le jardin. Voilà. Sur les 10 000, j'utilise que 2 000 euros.
Donc l'aide ménagère rentre pas là-dedans, par exemple.
Mais elle pourrait.
Elle pourrait.
Je pourrais.
Voilà, c'est ça que je voulais t'entendre dire. Tu pourrais en bénéficier si tu le souhaitais.
Si je voulais, bien sûr.
Je sens qu'Abdel a envie de parler, il est juste à côté de moi. Abdel, t'as envie de parler? Vas-y.
Oui.
Ouais, merci. Demandons la parole. Bonjour à tous les deux. Eh bien, j'écoutais attentivement ce que vous disiez par rapport aux tracasseries administratives, l'accès aux droits, etc. Mais en fait, ça devient une question qui touche quasiment toute la population.
Oui,
c'est ça.
J'étais en train de regarder, parce que quand je vous ai entendu parler de ça, j'avais déjà écouté et lu quelques articles qui étaient publiés par le défenseur des droits.
Ah, oui. D'accord, oui. Mm-hmm.
C'est quand même un organisme de la République, ça, officiel.
Oui.
Et bien, en 2024, par exemple, les constats, on a 61% des sondés qui rencontrent des difficultés, qu'elles soient ponctuelles ou régulières.
Oui.
Et ça monte.
Oui,
c'était à 39% en 2016. Mais en 2024, c'était à 61%. Je ne sais pas si on a les chiffres de 2025. Mmh. Vous imaginez la gravité de la situation. Et les gens disent qu'ils règlent plus leurs problèmes quand ils ont une personne humaine en face.
Oui, c'est vrai.
Ah oui.
Parce que la numérisation et traiter les dossiers en ligne, ça devient de plus en plus catastrophique. Parce qu'il faut avoir l'outil, il faut savoir le manier, etc.
Ouais.
Et maintenant, on en arrive quand même à 23% des usagers qui ont accès à des droits divers, qui déclarent, qui renoncent carrément leurs droits.
C'est ça, tu finis.
Alors ça peut être le RSA, ça peut être l'handicap, ça peut être plein de choses. Donc donc la question de tout mettre en ligne, numériser et réduire les services publics en termes de personnel, mais c'est vraiment une catastrophe aujourd'hui.
Non, mais alors, je vous dis une chose, par exemple, ça doit vous arriver aussi. Quand tu reçois des emails ou que tu fais des démarches, tu reçois des mails et puis à chaque coup, on te donne il faut que tu crées un compte et puis on demande un identifiant et un mot de passe. Bon, alors au début, tu as un mot de passe qui est hyper compliqué, etc. Et tout. Mais tu priorises quand c'est important. Tu le fais parce que tu es obligé, quand c'est les impôts, quand c'est tout ça, bon, ok. Mais il y a des moments, je reçois des trucs, je regarde même pas, je dis ok, c'est bon. J'en ai marre de taper les codes et les machins. On en a ras le bol.
Et personne ne répond au téléphone pour rejoindre ce que disait Abdel. Là, c'est difficile d'avoir quelqu'un au téléphone.
Par exemple, je te donne tout simple. Le dernier exemple, je te le donne. Ma voiture a eu un problème, comme vous le savez. Donc, un expert a dû passer au garage pour voir les dégâts qu'il y avait sur ma voiture, etc. Donc c'est un, une société d'expertise de Bordeaux, etc. Et, tout. Et donc, ils me disent, si vous voulez suivre votre dossier, voilà votre identifiant, voilà votre code, vous allez sur... Bon, eh bien, tout ça, mais je n'ai pas été le voir, mon dossier. Ils m'envoient un papier, ils ont dit, OK, la voiture est réparable. Eh bien, c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller voir. Tu tapes pas le super code machin et tout pour savoir. C'est fait.
Maintenant,
c'est fait. T'as pas besoin de. Pour ce genre de truc, tu vas pas taper un code machin et tout. J'avais pas le temps. J'ai dit, ils m'ont mis que c'était bon, que c'était réparable. Le gars de Citroën m'a appelé. Ils ont dit, l'expert est passé. Ils ont donné l'autorisation pour les réparations. Et bien, c'est bon.
Alors,
est-ce que tu continues? Tu regardes pas parce que sinon, on t'en a marre. Tu passes ton temps à ça. Alors après, tu te trompes d'une majuscule, tu te trompes d'un point, tu te trompes d'un, et puis ça marche pas, tu es obligé de recommencer. Oh, c'est bon. Hein.
Donc, et puis les fameuses plateformes-là en ligne.
Oui.
Par exemple, il y a le cas aussi des personnes étrangères, mais qui sont là depuis plusieurs années. Moi, j'ai croisé des gens qui ont plus de droits. Parce qu'ils ont essayé d'avoir des rendez-vous sur la plateforme des préfectures, un peu partout en France. Et puis, bon, ils attendent. Et puis, leur titre de séjour, la plupart qui ont un titre de séjour de 10 ans, mais s'arrêtent et ils sont dans un désert juridique.
Voilà, juridique.
Ils n'ont plus de statut administratif, ce qui veut dire que y compris quand ils ont des aides ou la sécurité sociale ou s'ils sont allocataires, etc., etc., comme tout le monde d'ailleurs.
Oui, oui.
Parce que la sécurité sociale, c'est la quasi-totalité de la population en France et comme la CAF, pareil. Hein. Et donc ils arrivent, leurs droits s'interrompent. Et donc ça devient vraiment flagrant. Bah, quand on voit les maisons de France Service, je salue les gens qui travaillent là-dedans, mais c'est un sparadrap.
Oui.
Sparadrap. Elles essaient de faire face.
Oui,
et ils sont vraiment pris d'assaut de partout. Pour faire les papiers. Ne serait-ce qu'un passeport, une carte d'identité, bon, ça s'est amélioré de ce côté-là, mais par rapport au droit, accès au droit, mais ça devient infernal, que ça peut être une retraite, ça peut être plein de choses. Et ça, c'est vraiment que on n'arrive pas à peut-être mesurer aujourd'hui, mais on le sent par le vécu des gens.
Oui.
C'est que la numérisation. La dématérialisation des services publics et des rapports humains directs, physiques, eh bien, ça fait des dégâts aujourd'hui. Voilà. Parce que là, par exemple, ne serait-ce que sur la fracture numérique, on évalue à peu près autour de 2 millions de personnes en France qui n'ont pas accès, soit ils n'ont pas les outils, soit ils n'ont pas la maîtrise de l'outil.
C'est surtout la maîtrise. Fred avait quelque chose à rajouter peut-être?
Alors, ajouter, je sais pas, mais enfin, juste partager un petit peu mon expérience que je vis actuellement. J'ai ouvert il y a peu de temps une entreprise individuelle. J'ai besoin d'avoir des documents de l'URSSAF, donc à fournir dans diverses structures. J'appelle l'URSSAF, on me dit qu'il y a 10 semaines de traitement en retard. Huit à dix semaines de traitement en retard. Donc, pour avoir mon CABIS, c'est une catastrophe pour pouvoir les fournir aux autres administrations. Donc, il y a toutes ces lenteurs-là aussi qui, sans compter, des soucis des plateformes en ligne, tout ce qui se fait en ligne. Quand on voit qu'à peu près toutes les semaines, il y a une institution ou un organisme de l'État qui se fait pirater et tout ça.
Aussi.
Parce que, du coup, ils font ils bloquent les plateformes pour faire les mises à jour de sécurité et tout ce qu'il faut. Voilà, ça rajoute encore du délai de retard de traitement.
Et pour rajouter sur ce que tu disais, il y a aussi je prends l'exemple de moi, quand je vais faire mes cours, je veux passer par une caissière. Et je ne veux pas aller à la caisse automatique.
Ah oui, moi c'est pareil, je passe pas par la caisse automatique, je passe par une caissière. Parce que bon, mais déjà, quand tu es handicapé que tu n'as qu'une main, ce n'est pas facile à faire.
Oui, déjà.
Il faut passer le truc devant le... Il faut le poser à côté, le reprendre, le scanner, le reposer. Là, c'est trop compliqué. Ce n'est pas simple pour
mais
nous.
Pour
donc, la caissière, souvent, en plus, les caissières, elles t'aident.
Oui, oui.
Donc, elles viennent te chercher les grosses choses, elles te scannent le truc et tout. Tu es aidé, en plus. Donc, moi, je préfère passer pour une caissière.
Moi, je pense que ce n'est pas la volonté de... quels que soient les endroits où on va, les centres commerciaux et compagnie, les salariés qui travaillent là-dedans, ils essaient de faire de leur mieux. Les services publics, je parlais tout à l'heure de France Travail, ou d'aller dans une municipalité, mais ça réduit, mais après, bon. Parce qu'on a tablé trop sur les ordinateurs, quoi.
C'est ça. Alors, bon, mais là, par exemple, je vois... Bon, mais... je vois, là, il a fallu... ma femme prend sa retraite, là. Donc, au mois d'octobre, elle est à la retraite. Donc, il a fallu faire le dossier. Je l'ai fait tout en numérique.
Oui.
J'ai réussi. J'ai fait sa demande. Tout est bon. Mais c'est moi qui l'ai aidé pour le faire. Il demande. Est-ce que quelqu'un vous a aidé et tout? J'ai mis que c'était son mari qui l'avait. Elle aurait été incapable de le faire. Parce que si tu veux, ma femme, elle sait se servir de la tablette pour aller voir sur Internet des sites de commerciaux, etc. Tout ça, elle sait. Mais pour tout cet administratif, elle sait pas le faire.
Je vais te raconter une anecdote.
Donc, je l'ai aidé pour faire ça.
Pour s'acheter des pompes ou un pull, un truc comme ça, beaucoup de gens passent par Amazon pour la consommation. Mais on a de plus en plus un Amazon des services publics.
Ah oui, c'est ça.
On est en train de développer un peu ça.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui, d'accord.
Et ça, quand tu as des personnes qui ne savent pas lire, des personnes illettrées, qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, et en plus, même quand tu le suis, même nous qui sommes les individus un peu érudits ou assez préparés par rapport à ce genre de choses.
Oui,
L'INTS, comment ça s'appelle, l'Agence nationale des documents administratifs.
Ah oui, oui, oui.
Mais j'ai passé, je pense que c'était un document banal, mais tu vas, tu passes page suivante, puis à un moment, mais ça te ramène au début.
Oui.
Et c'est bon, le bonhomme qui ne maîtrise pas
non,
ça, ouais,
non,
c'est,
non, non,
c'est,
non, mais...
c'est infernal.
Attention,
ça peut être infernal.
Depuis 10 minutes, on en dit du mal. L'outil informatique est pratique.
C'est vrai.
Je mets un mais pour tout ce qui est humain. Quand on a besoin d'informations, moi j'aime bien avoir quelqu'un en face de moi.
Mais bien sûr,
mon téléphone, je parle de téléphone,
c'est
on
pas
plus
pour
à
non, qu'on soit clair, c'est pas pour être un peu rétro là-dessus, mais effectivement, l'outil, ça reste un outil.
Oui,
exactement.
Que ce soit une voiture, un téléphone, un ordinateur, ça reste un outil, mais il ne peut pas remplacer l'humain. Donc à des moments tu dis bon mais je veux contacter telle administration ou tel organisme, bon je vais pas avoir droit qu'à répondre, mais à un moment il faut qu'il y ait quelqu'un aussi derrière, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça.
Oui.
Et quand on voit qu'il y a 23% des gens qui ont des droits, qui peut être le RSA
oui,
ou chose,
oui,
et qui abandonnent,
ça
veut dire mais ils ont besoin d'être accompagnés,
aider,
quoi,
par
leurs semblables.
Faut dire le mot, aider.
Parce que maintenant, chaque fois que tu dois aussi bien la CAF que la Sécu, que aussi les impôts, etc. Maintenant, chaque fois que tu veux leur poser... Allez, y répondre quand même assez vite. Mais chaque fois qu'il faut que tu veux leur poser une question, que tu as quelque chose à leur demander, il faut rentrer sur ton compte. Tu as la messagerie de ton compte.
Et, faut pas
et
que
là,
ça soit...
tu peux les interpeller. Tu leur poses la question et ils te répondent.
Il ne faut pas que ça soit pressé en plus, hein. Parce que...
Des fois, en un jour, deux jours, tu peux avoir...
Non, mais pour rejoindre
ce qu'a
dit Abdel,
mais...
si tu as besoin d'une info directe, tu
n'as
personne au téléphone.
Non. C'est-à-dire que tu rentres par ton code, tu rentres par ton compte, et là, tu as la messagerie personnalisée, et tu leur poses une question. Voilà, c'est le principe.
Bon, j'ai fait une petite intrusion.
Oui, non, mais ça poursuivait le débat, de toute façon.
Il y a bien sûr... pour que la problématique ne soit pas focalisée sur les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap, mais il me semble, ça devient une question globale qui concerne plein de gens. Soyons solidaires tous, quoi.
Mais en plus... Là, pour les personnes en situation de handicap, tu as le handicap en plus.
C'est la double peine.
C'est-à-dire qu'en plus, tu peux faire moins de choses que les personnes valides.
Exactement.
Tu vois, moi, je marche avec une canne, il est sur fauteuil roulant. Bon, voilà, on a des difficultés supplémentaires à vivre le quotidien.
Et puis, la fermeture des services publics, surtout dans les zones rurales, etc.
Ah ben oui.
Et les gens, on va leur dire... Bon, vous allez aller, je ne sais pas, dans le, si on cite le cas de la CAF, par exemple, il faut aller à Bordeaux-Lac, ou à telle administration, allez à tel endroit, mais ça veut dire que c'est du transport,
Et
pour des personnes peut-être à mobilité réduite, moi j'ai vu des personnes âgées aussi, mais là c'est fermé, elle s'est fermée là pendant une semaine. Il y a plein d'endroits comme ça. Et si vous voulez, vous allez à il faut prendre le tram ou le bus. Et ainsi de suite. Mais
c'est la même chose pour les déserts médicaux.
C'est pareil pour les déserts médicaux.
Et ça se traduit malheureusement par un ras-le-bol dans les opinions.
Et puis
qui se radicalise malheureusement.
On y vient. Je ne voulais pas y venir, mais on est obligé d'y venir. Les gens se radicalisent.
Et oui, voilà, malheureusement. Mais bon, c'est compliqué, quoi, parce que ça n'avance pas, quoi. On est toujours dans... On a l'impression de régresser, même, dans tous ces domaines.
J'ai un message pour Abdel qui nous dit que Yoann Dubord, que tu connais, je pense, de Drop de Béton, qui est bien connu de la maison, qui dit « Merci Abdel pour ce témoignage. Nous, avec les personnes en situation de handicap, on vit la même chose. Quand ils ont besoin de papiers administratifs, on les aide. Parce que s'ils ne nous ont pas à nous au quotidien, ils ne savent pas.
Et bien sûr, heureusement qu'il y a ces associations de proximité qui ne sont pas soutenues à juste titre.
Hein. C'est ça, et qui ne sont pas soutenues.
Soutenues à juste titre,
voilà.
Parce que j'imagine ce pays sont les associations dans les quartiers. Quand on s'amuse, même on le fait à Oudo Radio, à évaluer l'apport des bénévoles ou dans les centres sociaux ou dans les drops de béton, il y a plein d'associations comme ça. Mais quand on voit l'apport des bénévoles, si un jour ces gens-là s'arrêtent,
il n'y a plus d'argent.
On fait quoi?
T'es bien placé à Oudo Radio pour le savoir.
Oui, complètement. Merci pour drops de béton. Pour le message, oui.
Non, mais il me dit qu'ils merci pour le message d'Abdel.
Et qu'ils font un super travail sur le quartier.
Et voilà.
Et vive l'UBB.
Oui, surtout en ce moment.
Ah, oui.
Mais écoute, merci Abdel pour ce beau témoignage, en tout cas.
Merci à vous.
Non, mais ça met de l'eau
au moulin.
Quoi. Et voilà, donc c'est toujours intéressant. Et on parle de sujets d'actualité, et on en est toujours à défendre le...
La veuve et l'orphelin, j'ai
envie de dire. Oui, mais les personnes en situation de handicap, quoi. Et on voit, malheureusement, d'un côté, on dit le numérique a fait des progrès, a permis à certaines choses de se faire plus facilement. Et de l'autre côté, on a toujours le contraire.
Oui.
Ça a fait de la régression aussi dans d'autres domaines.
Oui, mais c'est très juste. Et je reviens toujours à notre moulin, parce que je reviens à la base, Guy. C'est-à-dire que quand on parle d'inclusion, la base pour une personne handicapée ou autre, c'est pour moi l'école.
Oui.
Même si aujourd'hui, il y en a de plus en plus, je ne sais pas si tu en connais Fred ou Guy, qui font l'école à la maison.
Oui.
Mais là, en l'occurrence, on parle d'inclusion. Vas-y.
Pour l'école à la maison, c'était jusqu'au 31 mai pour faire la demande pour l'année suivante.
D'accord.
Donc voilà, c'est tous les ans, il y a une deadline, enfin une date limite, pardon, pour faire cette demande-là. Et faut savoir que ça existe toujours, hein, le droit de faire l'école à la maison.
Mais, bien sûr, si tu peux pas faire autrement, pourquoi pas? Mais enfin, quand même, à l'école, il y a tout un aspect socialisation aussi, de rencontre avec d'autres enfants, de rencontre avec des professeurs, de rencontre avec des aides à la personne, etc. Et c'est important aussi. Moi, combien on a tous des souvenirs de professeurs qui nous ont aidés dans certains domaines. Moi, j'ai des noms.
Oui, moi aussi, si tu veux, j'en ai plein.
Mais voilà, qui nous ont aidés dans certains domaines pour nous faire aimer certaines choses, pour nous
et
orienter.
Et encore aujourd'hui.
Et voilà. Mais si tu fais l'école à la maison, tout ça, tu l'as pas. Donc, c'est un petit peu entre les deux. Quoi.
Oui, mais après, ce que je voulais dire par là, c'est
mais, que... Enfin, s'il n'y a pas d'autre solution, pourquoi pas.
Et pourquoi je venais là-dessus, et ça va être encore un sujet percutant, mais il nous reste peu de temps, mais c'est pas grave, on va le démarrer quand même. Je vois de plus en plus de lettres, de reportages, d'articles sur les enfants qui n'ont pas de place dans les écoles.
C'est ça, c'est
les
ça
enfants
aussi.
Handicapés,
c'est
ça, c'est je ça. Précise.
Et oui, c'est ça aussi.
Le... Et à côté de ça, j'en reviens au courrier qu'on a reçu, que Fred a très gentiment lu à ma place.
A bien lu.
Bien lu d'ailleurs. À côté de ça, on enlève la place dans des foyers à des gens qui en ont besoin.
Qui en ont besoin. Mmh.
Donc en fait, on se mord la queue, on fait n'importe quoi.
Oui, non, mais c'est ça, mais...
Et pourtant, il y en a qui sont pleins d'initiatives, qui sont pas forcément... qui sont bienveillants, tu l'as dit tout à l'heure.
Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une, quand même une sensibilisation au niveau du public.
Ça, j'arrive pas à le dire, donc tu l'as dit, bravo.
Sensibilisation
pas à le
dire. Par rapport lié aux personnes en situation de handicap qui a progressé. C'est-à-dire que maintenant, par rapport à mes débuts, il y a maintenant 60 ans, c'est vrai que les gens, maintenant, on le voit, il y a beaucoup plus de bienveillance. Les gens comprennent les situations, on le voit au supermarché, les gens nous aident. Si par hasard on sort avec notre caddie, on nous accompagne pour nous dire on va vous le mettre dans le coffre. On va voilà, il y a beaucoup d'aide plein partout. Quand on a à ouvrir une porte dans la rue, s'il y a quelqu'un, hop, la personne nous ouvre la porte. Enfin bon, il y a des choses quand même qui se font. Les gens se rendent compte qu'on a souvent besoin des autres pour y arriver, pour faciliter notre vie. Donc ça, maintenant, c'est quand même rentrer un petit peu plus dans les mœurs qu'à une époque. Parce qu'à une époque, au début, quand je suis né, même si mon handicap n'est pas énorme, mais enfin, j'étais vu comme une bête curieuse, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on se demandait, mais c'est qui cet enfant, quoi. Donc, c'est une bête curieuse. Maintenant, c'est fini, ça, heureusement.
Le capitaine de bord a oublié son téléphone. S'il pouvait revenir en plateau, s'il vous plaît.
Ah,
on va le revendre sur le bon coin.
Voilà, c'est ça.
D'accord, sur Amazon.
Voilà, on y parlait d'Amazon tout à l'heure, exactement. On n'a pas pu en parler depuis 15 jours, 3 semaines, parce que nous n'étions pas là. Mais je tiens à rappeler que j'ai vu des chiffres passer. Sur la nouvelle réforme sur le fauteuil roulant, il y a plus de 200 000 demandes.
Ah oui, oui, oui.
Et on considère qu'il y a beaucoup d'abus. Attention à ce que ça ne le soit pas supprimé.
Ah, mais ça y est. Alors
on l'avait dit.
On est parti dans les abus.
On
ça
l'avait
y
dit.
Est.
Mais rappelez-vous, on l'avait dit avec Guy. C'est une super initiative, mais attention, on l'avait dit.
Eh bien oui.
Je crois que l'expérience parle un peu.
Et voilà, donc bon...
On va passer pour des vieux croulants, là.
Non, mais d'un autre côté, voilà, mais d'un autre côté, je veux pas qu'à chaque fois, après qu'on dise quelque chose, oui, mais il y a trop d'abus. Oui, mais il y a trop d'abus. On a toujours que cette réponse.
Non.
Donc bon, il faudrait pas non plus trop tomber là-dedans quand même.
Moi, je rejoins Guy là-dessus. Faut l'excuse de il y a trop d'abus. Donc voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'abus dans l'audiovisuel public. Et est-ce que pour autant, ils ferment les vannes? Non, ils continuent à se gaver.
C'est ça.
Oui,
et
mais
c'est
alors, je suis entièrement d'accord avec ce
voilà,
que vous dites.
Voilà, c'est ça.
Mais dans ces cas-là, c'est une question parmi tant d'autres. Est-ce qu'il ne faut pas limiter si on dit qu'il y a trop d'abus? On dit non, il y a le droit à tant de demandes, point.
Oui, je ne sais pas, mais bon, mais aussi...
Parce que là, vu comment c'est parti...
Non, mais le problème...
La réforme ne va pas durer longtemps.
Hein. Oui, non, mais le problème, c'est que c'est facile à mettre ça sur ce côté-là.
Sur le dos des abus. Non, mais...
Sur le dos des abus, comme ça, ils n'ont pas le reste à dire.
Non, mais après, moi, je vais dire une autre vérité. Et moi, maintenant, je ne cache plus rien, je vais le dire. On nous parle sans cesse du déficit de la sécurité sociale.
Oui.
Excusez-moi de te dire.
Abyssal.
En faisant cette réforme-là, ça n'aide pas à la renflouer non plus. Hein.
Non plus. Ça, c'est vrai.
Donc, il y a de l'incohérence quand même là-dedans. Alors, tu vas me dire, on peut faire des efforts ailleurs. Ça, je l'entends.
Exactement.
Mais est-ce qu'on sait faire des choix en France? Je ne suis pas sûr.
Si, on sait faire des choix, seulement mais c'est pas forcément les mauvais pour tout le monde, c'est ceux qui sont c'est pas forcément ceux qui t'arrangent à toi.
Voilà, c'est pas forcément.
Mais là je parle pas que de moi.
Non, mais je parle du enfin quand je dis à toi, c'est le citoyen
au commun des mortels.
Ouais. Commun des mortels.
Oui, t'as sûrement raison. Mais moi je pensais qu'en faisant cette réforme pour vous répondre, il y allait avoir des choix qui allaient être faits, mais je vois que non.
C'est-à-dire que c'est pour tout le monde.
Vu qu'on nous dit qu'au final, il y a sûrement des abus, c'est qu'en fait, il n'y a aucun choix qui a été fait.
Et
enfin, moi, je l'entends comme ça.
Et tout le monde s'engouffre dans la brèche. Quoi. Voilà. Bon, mais alors.
Bon,
après,
en attendant, il n'y a aucun Français qui s'est engouffré dans la brèche de Roland Garros. Hein, mais...
Non, bon, là, c'est fini. là, on en est. À voir. Mais bon, on en est à. Donc Zverev a gagné les deux premiers sets.
Déjà le deuxième
6-1, il lui a mis. Et au troisième, il a fait le break, hein, déjà, il mène 3-1.
Bon, mais donc, je crois que vous allez pouvoir écouter la deuxième heure, parce que
oui,
dans pas longtemps, ça va être terminé.
Peut-être, on va voir si Rodard va arriver à débriquer. Mais bon, j'ai les images là-dedans, j'ai coupé le son hein, pour pouvoir parler avec vous, mais j'ai les images, donc je suis en direct le match.
La seule bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'on ne dit pas trop de bêtises, parce que Guy a enlevé le son.
Ah ben, je coupe
le son. Donc c'est qu'il nous écoute quand même.
Voilà, oui, quand même. Je participe quand même, mais j'ai juste les images en fond, quoi. C'est tout.
Fred, ce que je voulais... depuis quelques semaines et quelques mois, allez, on va dire quelques mois, que tu fais l'émission avec nous. Est-ce que tu as appris des belles choses ou on est sans cesse en train de râler? Vas-y, dis-nous tout.
Eh bien, Alexis, merci de me poser cette question. Oui. Et je dois te confier effectivement que j'apprends à chaque nouvelle émission, j'apprends de nouvelles choses. Et merci de m'enrichir.
C'est beau. Je crois que sur ces belles paroles, c'est beau.
Ouais, non, mais on fait ça avec notre cœur.
On essaye de ne pas être négatif surtout.
Ouais, on n'est pas négatif, mais on dit les choses quand même. Malheureusement, les choses sont.
Plus négatif que positif.
Ouais, c'est pas évident. On n'est pas dans une situation actuellement qui est très favorable, quoi. Mais bon, toujours là, on est toujours derrière le micro. Comme on dit, il y a toujours pire que nous. Hein.
Alors, on va faire l'annonce là aux gens qui nous écoutent. On a pris la décision et un risque avec Guy en même temps, ça va le faire sourire, d'arrêter les émissions. Le 21 juillet, parce qu'on espère un sacre de l'équipe de France de football.
Oui.
C'est-à-dire que la finale de la Coupe du Monde est le 19 juillet.
Oui.
Et donc la dernière émission serait le
21. Et donc ça fait le lien à la suite
du programme. À la suite. Parce qu'on va parler Coupe du Monde. On va parler handisport parce que Johan vient de m'envoyer
des infos.
Des informations. Le sosie de Fabien Barthès, Fred, sera toujours avec nous.
On parlera
de chauve dans le sport. Il y en a de plus en plus.
Ah, mais là, il y a Guy Forget, là. À Roland-Garros.
Et donc, voilà, on se dit à deux petites minutes. Allez, à tout de suite.
À tout de suite.